pasteur David Mutuale, un enfant de la maison. C'est le pasteur de notre extension à Bumbu. Il y a un grand travail qui est en train de se faire là-bas à Bumbu. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Surtout quand nous voyons les faibles commencements de ce travail, mais le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Amen. Amen. Quand on est fidèle, eh bien le Seigneur manifeste sa gloire. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le pasteur David qui nous apporte la parole. Et il n'est pas venu seul, il est avec son épouse, à qui je demande de s'élever et de saluer le peuple de Dieu. Ok. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui m'est accordé encore ce matin de pouvoir me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Je dis merci également au couple pasteur, papa Joseph Bondo, maman Gisèle, merci pour cette marque de confiance. Et nous allons vous convier à lire dans la parole du Seigneur, dans deux textes. Ensuite, nous prierons pour partager cela. Je vous convie à lire premièrement dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14. Et le second texte, nous allons le trouver dans le livre du prophète Osée, le chapitre 7, le verset 8 à 9. Osée, chapitre 7, verset 8 à 9. Nous commençons avec Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. Il est dit clairement ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Et Osée, chapitre 7, le verset 8 à 9, il est dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Amen. J'ai pris comme thème ce matin par rapport à notre pensée annuelle, cette année qui a été décrétée comme année d'évangélisation. Le Seigneur m'a conduit à vous parler sur le réveil de l'Église pour une mission efficace. Le réveil de l'Église pour une mission efficace. Bien-aimés, nous allons, prier. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Tu nous donnes d'ouvrir cette parole devant ton peuple. Nous ne pouvons pas manquer d'élever la voix et de demander ton assistance. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à parler de toi avec toi, de nous aider, Seigneur, à parler de manière à annoncer tes oracles. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je disais, le réveil de l'Église pour une mission efficace. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si l'Église veut réellement sauver le perdu, elle doit commencer par se réveiller elle-même d'abord. Pourquoi? Parce que le réveil débarrassera l'Église de toutes les scories qui rendent terne son éclat. Il lui suffit de briller, tout simplement, afin d'attirer ceux qui sont assis dans le ténèbre. Notre rôle est de briller en tant qu'Église. C'est le rôle qu'avait Israël d'être la lumière des nations. Nous sommes en train de voir ici le prophète Osée s'adresser, n'est-ce pas, à ce peuple. Lorsqu'il parle d'Éphraïm, il n'est pas question d'Éphraïm comme tribu, mais c'est une autre désignation, tout simplement, d'Israël. Il dit que Israël se mêle, plutôt Éphraïm se mêle de peuple. Éphraïm, en se mêlant de peuple, devient comme un gâteau qui n'avait pas été retourné. Et voilà que des étrangers s'emparent de ses forces, des étrangers le pillent, mais il ne se rend même pas compte. Il est en train de vieillir, il y a des signes de vieillesse, mais malheureusement, Éphraïm ne se rend pas compte. Lui qui a reçu la mission, n'est-ce pas, d'être la lumière, de briller, mais c'est maintenant lui qui est en train de se mêler, n'est-ce pas, des peuples. Vous devez savoir, Église du Seigneur, que toute le fois où l'Église se mêle avec le monde, c'est-à-dire se mêler dans le sens de suivre le voie du monde, se mêler dans le sens de vivre dans le syncrétisme, dans le mélange, il y a un déclin spirituel. Il y a un sommeil, où il y a le sommeil spirituel, n'est-ce pas, qui vient s'installer. Voilà pourquoi l'Église a d'abord besoin de se réveiller elle-même avant d'aller porter la parole de Dieu aux perdus. Lorsque nous parlons ici de réveil, nous faisons allusion au réveil biblique, celui auquel le Christ appelle son Église à se conformer. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 14, il est dit, c'est pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. Ce réveil n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu qui vient redonner à son Église l'éclat qu'elle a perdu. C'est le retour à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le passage de l'état de sommeil spirituel à un état d'éveil spirituel. C'est le renouvellement de sa passion pour le Seigneur, etc. Voilà de quel réveil je suis en train de parler. Ce réveil dont je parle ne concerne pas le monde. Le monde n'a pas besoin de se réveiller. Le monde a besoin de la résurrection. Car tous ceux qui sont dans le monde sont morts parce qu'ils n'ont pas Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le réveil, c'est pour l'Église. L'Église a besoin de se réveiller afin que par elle, le Seigneur ressuscite ceux qui sont dans le monde. Le réveil, bien aimé dans le Seigneur, est le moyen de Dieu pour maintenir prête son Église avant son avènement. Dieu veut que son Église demeure éveillée, soit dans le réveil, afin d'être prête, afin d'être préparée. Jésus revient prendre une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette église dont je suis en train de parler ici est loin d'être un bâtiment physique. Cette église, bien-aimé, c'est l'ensemble des rachetés, de ceux-là que le Seigneur a tirés dans le monde. Il les a conduits hors d'eux, afin de faire d'eux un peuple de sacrificateurs, afin de faire d'eux une nation sainte, afin de faire d'eux un peuple acquis. Pourquoi ? Pour annoncer. Annoncer le merveille du Seigneur. C'est de cette église-là dont je suis en train de parler. Il y a plusieurs images descriptives de l'église dans la parole de Dieu, mais ce matin, j'ai choisi l'image du corps. C'est là en Éphésiens chapitre 1er, le verset 22 à 23, l'église est décrit comme un organisme vivant, c'est-à-dire un corps. Oui, ce n'est pas n'importe quel corps, mais c'est le corps du Seigneur, à la fois bien-aimé physique, mais également spirituel, et dont Christ lui-même est la tête. Or, tout corps doit disposer des deux choses, d'une source de vie qui l'empêche de se décomposer et d'un but. Le but, c'est la raison d'être. Tout corps, tout organisme doit disposer de ces deux choses-là. Une source de vie. Pourquoi ? Pour l'empêcher de décomposer, de connaître la décomposition. Mais également, tout corps doit avoir une raison d'être. Pourquoi tu existes ? Pourquoi est-ce que l'Église est là ? Pourquoi est-ce que Jésus ne nous a pas retirés dans le monde après la nouvelle naissance ? Oui, bien-aimés, la mission de l'Église, nous pouvons le dire, qu'elle est à triple portée. Elle est d'abord tournée vers le Seigneur. L'Église est appelée à adorer le Seigneur. Elle est centrée vers elle-même. L'Église est appelée à s'édifier. Mais elle est portée également vers le monde. C'est-à-dire l'Église a la mission, la responsabilité d'évangéliser le monde. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, sel du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. L'Église a reçu, n'est-ce pas, la mission d'évangéliser le monde, de gagner les âmes. Le Seigneur ne nous demande pas de convertir le monde, mais d'évangéliser le monde. Alléluia. Nous avons reçu, n'est-ce pas, cette mission-là. L'Église est un instrument des dieux pour l'évangélisation du monde. Mais nous n'avons pas besoin seulement de faire la mission, mais nous voulons accomplir une mission efficace. Lorsqu'on dit efficace, ça veut dire que c'est quelque chose qui produit les effets attendus. Lorsqu'on vous donne un produit et que le produit donne des effets attendus, on dit non, ce produit est efficace, n'est-ce pas? Il faudrait que l'Église, dans sa mission, produise des effets attendus. Partout, il y a une Église vivante, les gens doivent savoir qu'il y a la lumière ici. Les gens doivent savoir que le Dieu vivant est ici. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le corps doit disposer d'une source de vie. Nous avons dit que notre raison d'être, c'est aussi d'évangéliser, de gagner les âmes pour Christ. Mais nous devons disposer également d'une source de vie, afin de ne pas connaître la décomposition, le déclin spirituel. Notre source de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Et quand l'Esprit de Dieu n'est plus présent dans l'Église, il y a la décomposition. L'Église demeure la maison des dieux dans la mesure où ses membres sont remplis de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes remplis de l'Esprit du siècle présent, ce n'est plus la maison des dieux parce que nous savons qui agit dans le siècle présent. Quel est l'Esprit du siècle présent? Il ne suffit pas pour nous de porter une dénomination. Mais encore, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. C'est une chose d'être rempli du Saint-Esprit, et c'en est une autre d'en être rempli continuellement. Dieu veut que nous soyons continuellement remplis de son Esprit Saint, afin d'être maintenus dans un réveil spirituel. Je voudrais vous relater un peu ce petit extrait de Matthieu 16, le verset 13 à 27. Dans Matthieu 16, plutôt verset 13 à 27, nous avons là la belle confession de Pierre. Pierre, qui est l'un des disciples de Christ. Jésus, s'approchant de la fin de son ministère terrestre, il les avait conduits quelque part où il leur pose la question de savoir qu'est-ce que les gens disent à mon sujet. Qui dit-on que je suis? Alors là, je vois les disciples en train de répondre. Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, et les autres encore affirment que tu es l'un des prophètes. Bon, c'est bien, mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi, je pense qu'il y a eu un petit temps de silence, et il y a Pierre qui va élever la voix pour dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia! Jésus est très content pour cette belle confession. Et lorsqu'il l'appelle, il dit « Simon, fils de Jonas ». Il rappelle même le nom de son père. « Lorsque tu accompliras des bonnes choses pour le Seigneur cette année, même si ta famille n'était pas connue, par toi elle sera connue. » Simon, fils de Jonas. Je suis très heureux parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père, alléluia, mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ces choses. Waouh, mais c'est intéressant. C'est pourquoi je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et le porte des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église du Seigneur est indestructible. Alors, mettez-vous à la place de Pierre. un témoignage, une promesse, des belles choses, des bonnes choses qui sont dites sur lui. Combien c'est merveilleux d'entendre cela, n'est-ce pas? Et quelquefois, on s'enorgueillit. Alors moi, c'est moi qui le dis, je crois que Pierre a regardé les autres. Jacques, tu as entendu? Qui n'a pas entendu ce que le maître a dit tout à l'heure? Jean, bon, viens, c'est toi qui vas faire le marché aujourd'hui, parce que vous avez entendu qui moi je suis, n'est-ce pas? On va remettre l'autorité, le clé. Alors, le Seigneur ne tarde pas à surprendre Pierre. Il dit, bon, venez, écoutez, voilà, voilà ma raison d'être. Je vais monter à Jérusalem. Là, je souffrirai pendant beaucoup de temps. Ensuite, entre les mains des pharisiens, des scribes, ensuite on va m'arrêter, on va me mettre à mort et 3 jours, je ressusciterai. Pierre n'a même pas entendu cette partie-là, j'ai ressuscité. Non! Il appelle Jésus des côtés. Seigneur, viens. Tu vois, moi, je te respecte beaucoup. Je n'ai pas voulu te parler devant les gens et les autres là. À Dieu ne plaise! Ça, c'est quelle pensée comme cela? Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, comment? Waouh! C'est lui qui venait de faire une belle confession. Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang, c'est mon Père. Maintenant, ce n'est plus l'esprit du Père. C'est qui? C'est Satan. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Pierre? Bien-aimé, Pierre, comme les autres Juifs, ont dans leur esprit la pensée d'un Messie juif, comment on dit, un chef politique. Ils ont dans leur esprit un royaume terrestre, un Messie puissant qui viendrait le délivrer des jougs romains, des Romains. Et c'est ce qu'ils attendent. Donc lorsque le Seigneur lui dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux, lui il pense que c'est comme Joseph en Égypte, premier ministre. Maintenant, comme j'ai tout laissé là, je deviendrai premier ministre, j'aurai les clés, je vais décider. Mais comment toi tu veux encore mourir? Non, 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 à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. Frères, sœurs, toute le fois où nous poursuivons nos propres intérêts, nous commençons à poursuivre notre propre gloire, le déclin spirituel arrive. Le déclin spirituel arrive à l'Église, toute le fois où l'Église laisse la gloire de Dieu, laisse les intérêts de Dieu et commence à s'intéresser à ses propres intérêts, à rechercher une gloire personnelle. Voilà pourquoi celui par lequel le Père venait de parler, maintenant c'est un autre esprit qui parle. Pourquoi? La quête des intérêts personnels. Vous allez vous rappeler aussi de Géasi, n'est-ce pas? Géasi qui était un serviteur de Dieu aux côtés du prophète Élisée. Qu'est-ce qui se passe avec Géasi? Lorsque Naaman est guéri, le maître ne voulait pas prendre ses présents. Mais lui, il regarde et il dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? On a rendu service, non? Il va poursuivre de lui-même cet homme et demander, voilà, mon maître a dit ceci, cela. On lui donne des présents, il vient cacher. Mais j'aime la réaction du prophète. Lorsqu'il lui pose la question, où étais-tu? Oh non, ton serviteur ne s'en est allé ni à gauche, ni à droite. Mon esprit n'était pas absent quand tu as suivi cet homme. Alors, écoutez, il dit, est-ce pour nous les temps de prendre des maisons, de chercher des vêtements, de s'amasser des choses? Église du Seigneur, il y a une urgence. Jésus revient bientôt. Nous devons rechercher les âmes. Ce n'est pas pour nous le temps de rechercher ces choses-là. Le temps est très court. Nous devons viser la gloire de Dieu. Nous devons chercher les intérêts de Dieu. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Sinon, hier, c'est l'Esprit qui a parlé par nous, l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on laisse les objectifs de Dieu, on poursuit ses propres objectifs, c'est un autre Esprit qui va parler en nous. C'est ça le problème de l'Église actuellement, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle de façon générale de l'Église. Lorsque nous sommes en train de voir ce qui se passe dans notre ville, on se rend compte que l'Esprit de Dieu a quitté dans plusieurs églises. Que Dieu nous aide, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il nous aide à comprendre et à retourner, à vivre un véritable réveil pour la gloire du Seigneur. Et l'esprit du monde vient aussitôt remplacer lorsque l'Esprit de Dieu est éteint quelque part ou n'agit plus. L'Esprit du monde vient remplacer. Vous verrez dans plusieurs assemblées cela. L'Esprit du monde a remplacé l'Esprit de Dieu. Beaucoup de croyants sont dans une quête acharnée des intérêts personnels et égoïstes qui n'ont rien à voir avec les intérêts de Dieu. C'est eux qui inspirent maintenant même les messages aux prédicateurs que vous devez prêcher comme ceci, comme cela. Vous parlez de la repentance, ça ne nous concerne pas. C'est l'esprit du monde qui a gagné plusieurs cœurs. Le sommeil spirituel fait perdre à l'Église sa capacité d'assumer ses responsabilités à l'égard du monde. Quel est l'état du monde actuel? Le monde actuel est en train de périr et on peut le sentir. On peut sentir les degrés de sa dépravation. L'égoïsme de l'homme est à la base des mauvais temps que nous sommes en train de traverser. Il y a des problèmes partout dans le monde. Il y a une insécurité comme jamais dans le passé. Vous avez appris qu'il y a quelques semaines en arrière, un avion des civils, rempli de civils, avait été abattu gratuitement et tous les passagers à bord périrent. Moi, j'ai appris cette semaine que la secte de Boko Haram avait exécuté un pasteur. L'insécurité a atteint un niveau où aucune nation peut dire qu'elle maîtrise les choses. Les armes circulent partout. Les fabricants créent même le conflit afin de liquider leurs marchandises. C'est ainsi que dans un même pays, on vend les armes aux rebelles et on vend les armes au gouvernement. Vous trouvez parfois les rebelles ont des armes plus sophistiquées que le gouvernement. La corruption gangrène nos sociétés. L'immoralité, la cruauté, l'animosité, l'homosexualité. On impose même cela, on veut que tout le monde légalise cela comme si c'était une bonne chose. Pourtant, la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu tombe sur le fils de la rébellion. La bestialité, toutes ces choses ont atteint leur niveau, bien-aimé, le plus élevé. Regardez, avant, le voleur pouvait, lorsqu'il te rencontre, il te vole ton sac, il te vole ton téléphone, il te vole ton argent. Mais aujourd'hui, lorsque tu croises un voleur, il te vole le rein, il te vole le cœur, il te vole le pancréas. Regardez les niveaux des cruautés. Et lorsqu'on te vole comme ça, tu es vivant, tu regardes. Il y a plusieurs témoignages des ventes des organes humains. La cruauté dans le cœur de l'homme. Et comme je le dis tout à l'heure, aucune nation ne peut prétendre avoir la maîtrise de la situation. Au point où nous sommes arrivés, frères, sœurs, aucune alliance politique, aucune coopération bilatérale, aucun projet de société ne changera quelque chose dans le monde actuel. Le seul et unique espoir de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Jésus est la solution de Dieu au problème de l'humanité. Là où les universités ont failli, là où la science a échoué, là où la technologie n'a rien résolu, Jésus peut faire quelque chose. Jésus peut faire quelque chose. Mais c'est Jésus doit être présenté. C'est Jésus doit être prêché. L'évangile. C'est ou l'évangélisation, c'est le fait de présenter Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Afin que les hommes l'acceptent comme leur Seigneur et qu'ils le servent comme leur Sauveur. C'est ça l'évangélisation, bien-aimé. Il faut présenter Christ parce que c'est lui la solution. Le monde va mal, mais Christ peut faire quelque chose dans le cœur de plusieurs. Il peut faire quelque chose. Mais qui va présenter ce Jésus? Comment parlera-t-on de lui s'il n'y a personne qui est envoyé? Ou si ceux qui sont censés être envoyés sont dans le sommeil spirituel? Bien-aimés, pendant que le monde va mal, on se pose la question, comment va alors l'Église? Comment se porte l'Église? Oui, l'Église aussi est dans le sommeil. Le sommeil spirituel, c'est cet état de léthargie spirituelle, cette nonchalance spirituelle. Le sommeil spirituel, bien aimé, c'est un relâchement spirituel. On avait bien commencé,
Mais depuis un certain moment, on se relâchait. Celui qui doit se réveiller, c'est celui qui dort. Parce que l'ordre est donné, réveille-toi, toi qui dors. Le sommeil spirituel envahit plusieurs personnes et plusieurs églises. Mais je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, attirer notre attention sur le caractère subtil de ce sommeil spirituel-là. Parce que, regardez, nous allons tenter quelque chose ce matin. Aidez-moi à poser la question à votre voisin de gauche ou de droite. Posez-lui la question. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Ok. Posez-lui la question. Est-ce que vous dormez spirituellement? Posez-lui cette question. Quelle est la réponse? Voilà. Non. Bien souvent, le sommeil est accompagné de mensonges. Parce que lorsque vous dormez, regardez. Frère, on prêche, non? Oui, je suis là. Je te suis, oh, je suis avec vous. Il est au Japon. Nous sommes complices avec quelque chose qui nous tue, quelque chose qui nous détruit. Nous sommes complices avec. On avoue ou pas qu'on dort. Il y a des gens qui développent même des stratégies pour dormir sans être remarqués. Je me souviens d'un bien-aimé, nous étions aux études ensemble à l'Institut biblique. Il était de forte taille, lui il était vraiment spécialiste. Vous voyez, moi si j'ose dormir ici, vous allez remarquer parce que j'ai fait comme ça. Mais lui, avec sa taille, lorsqu'il est là, il baisse tout, il met des lunettes. Et il baisse seulement sa tête comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous faisait comprendre qu'il dormait? C'est les ronflements. Il aimait qu'on l'appelle sacrificateur. Sacrificateur, tu dors? Non, 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 je suis là avec vous. Je suis là. Tu n'es pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus là depuis un certain temps. Tu n'es plus là depuis un certain temps. Oui, on croit qu'on est réveillé spirituellement parce qu'on a chanté pour le Seigneur, parce qu'on a prêché sa parole. Tout à l'heure, on venait de chanter, c'était merveilleux, avec une telle ambiance spirituelle, un tel bonheur dans le cœur. Qui peut croire, qui peut accepter qu'il dort spirituellement? On croit qu'on s'est réveillé ou on est réveillé spirituellement parce qu'on était venu à l'heure à l'église. Oui, aujourd'hui, j'étais venu à l'heure. Moi, je suis réveillé spirituellement. Ou parce qu'on remplit des rites religieux. Les tâches chrétiennes que nous accomplissons ne sont pas toujours synonymes d'un réveil spirituel. Parfois, les exploits même accomplis dans les ministères ne sont pas toujours synonymes de réveil spirituel. Que dirait Samson s'il était là? Parce qu'à peine sorti de la maison d'une prostituée, s'il vous plaît, il sort, il voit, les Philistins sont là, ils le cassent là, tous la mâchoire. Ils le détruisent. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous avez vu comment je les ai terrorisés. Bien souvent, nous nous rendons compte que nous dormons quand c'est déjà trop tard. Parce que la prochaine fois, la Bible dit, il s'est levé, il voulait taper. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. C'est ça l'état de plusieurs personnes, de plusieurs cœurs, peut-être ce matin, ou peut-être qu'ils nous suivent à la radio. C'est l'état des cœurs de plusieurs personnes. C'est l'état de plusieurs églises. L'Éternel était déjà parti. Et tout ce que nous faisons, ce sont des artifices. On peut même tenter d'aller faire le porte-à-porte pour faire ce devoir religieux, entre guillemets. Mais Dieu n'est plus avec nous. Oui, ce n'est pas parce que les gens s'écroulent par terre dans nos cultes que nous sommes réveillés spirituellement. Il y a des églises où cela est mis en exergue, en spectacle. On doit filmer comment on tombe, etc. Alors que même le catcheur de l'autre côté, ils font tomber les gens aussi. Avec le sommeil spirituel, on peut même lire la parole de Dieu chaque matin. Mais juste comme un devoir que l'on doit remplir. Ça ne procure aucune appréciation spirituelle. On ne lit pas pour rechercher la volonté de Dieu afin d'obéir, mais comme un simple exercice visant à satisfaire une curiosité intellectuelle. avec le sommeil spirituel. On peut même prier, mais une prière qui n'offre plus d'intimité et de communion avec le Seigneur. On n'expérimente plus la puissance de la prière. Ça devient comme juste un devoir qu'on doit remplir. Avec le sommeil spirituel, on fait semblant d'aimer les autres, mais on n'en a plus la capacité. En fait, c'est de l'hypocrisie. Là où il y a le sommeil spirituel, l'amour disparaît parce que chacun poursuit ses intérêts personnels. Nous n'avons plus, bien aimé dans le Seigneur, un seul intérêt, un seul objectif commun que nous poursuivons tous. Parce que qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble? C'est la poursuite d'un seul objectif. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens peuvent avoir des divergences d'opinion. Mais puisque nous poursuivons un même objectif, nous allons être ensemble. Alléluia. Est-ce que c'est l'état de l'Église actuellement? Lorsqu'une Église ou un croyant est accablé par le sommeil spirituel, il perd beaucoup de choses comme Éphraïm, nous l'avions lu tout à l'heure. Il se mêle avec le peuple et maintenant on le compare à une miche de pain qui n'est pas convenablement cuite. Un gâteau qui n'a pas été retourné. Vous voyez? Donc même pour la consommation, il est impropre. On perd, parce qu'on dit que des étrangers consument sa force. Vous voyez? Et ils ne s'en doutent pas. Dans le sommeil spirituel, vous perdez des choses, mais vous ne vous en doutez pas. Vous ne vous en doutez de rien. La vieillesse s'empare de vous. La vieillesse spirituelle. Pourtant, Jésus revient prendre une église qui n'a pas de rides, vous voyez? Mais avec le sommeil spirituel, nous avons des rides, nous avons vieilli spirituellement. Les sommeils spirituels rendent vieux. Bien-aimés, lorsqu'on observe l'état de l'église actuellement, on aperçoit des futilités, des choses, des néants, des divisions causées par un manque d'amour. La poursuite des intérêts égoïstes. Il y a des gens qui acclament certains projets, même dans l'église, quand ils ont un intérêt particulier. Mais quand ils n'ont pas d'intérêt, ils croisent le bras. Ils ne feront rien. Vous voyez? C'est ça le signe des sommets spirituels également. Ce n'est pas normal, bien aimé. Nous avons un évangile dilué, un réveil fabriqué. Il y a des gens qui ont trempé dans l'occultisme. Des prédicateurs qui ont trempé dans l'occultisme pour créer des artifices, pour arnaquer les gens. Il y a des choses terribles, bien aimés, l'immoralité sexuelle qui a élite domicile, même dans des églises. Vous trouvez beaucoup de gens se disant chrétiens, mais vivant régulièrement dans la fornication, dans la masturbation. Vous allez trouver, bien aimés, même des prédicateurs qui font avorter les filles de leur église plusieurs fois. Toutes ces choses se sont installés dans l'église du Seigneur et ont jeté un discrédit, une honte dans l'église. L'église qui devait être la lumière pour briller est maintenant revêtue d'un vêtement de honte, bien-aimé dans le Seigneur. Seul le réveil nous débarrassera de cette honte-là. Le vrai réveil biblique alors. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des préalables. Il y a un prix à payer, Église du Seigneur, si nous voulons réellement vivre ce réveil. Car le Seigneur, notre Dieu, n'a pas de réveil d'occasion. Non, il faut que l'on paye le prix de la consécration, le prix de la prière, le prix de l'unité. Il faut que ceux qui cherchent le réveil aient un cœur uni. Nous ressemblons à une équipe de football, frères, sœurs. Je n'ai pas forcément besoin de marquer les buts. Non. Mais si mon frère marque, la victoire appartient à l'équipe. Alléluia. La victoire appartient à toute l'équipe. Le sommeil spirituel est en train de nous détruire, bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, ce réveil ne doit pas être un simple slogan. Ça doit être une question de vie ou de mort. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, que les hommes et les femmes agonisent dans la prière. Des gens qui vont mourir dans la prière, qui acceptent de payer le prix. Il faut un peuple en quête perpétuelle d'un réveil spirituel. Bien aimé, le démon, le sorcier et toutes les personnes malfaisantes vont combattre toute tentative de mouvement de réveil dans l'Église. Ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas.
Ouais.
Parfois, lorsqu'il n'y a pas un moment de prière, il n'y a pas de moment de prière. Quand vous créez un moment de prière à l'église, oh non, mais il y en a trop, de plus en plus. Donc, on ne sait pas, toi, tu veux quoi au juste? Ils vont chercher à déstabiliser tous ceux qui vont chercher à allumer le feu. Oui, bien-aimés, nous devons nous préparer pour cela. Nous devons nous préparer. La sanctification du groupe doit augmenter, mais la sanctification individuelle doit aussi augmenter. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez, n'est-ce pas, les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous mettre ensemble, de regarder où est-ce que nous allons, où est-ce que l'Église du Seigneur se dirige. Bientôt la trompette sonnera. Vous savez que lorsque Christ reviendra, peut-être que ça sera pendant un culte comme celui-là. Et ça sera étonnant de voir que vous étiez là, mais les autres sont partis, vous êtes restés. Jusqu'à quand on va demeurer dans l'endurcissement? Jusqu'à quand, bien-aimés, on va faire semblant de ne pas écouter la voix de Dieu? Jusqu'à quand nous allons continuer à la dérive? Jusqu'à quand nous allons continuer sur la mauvaise voie? Le Seigneur nous appelle ce matin à la repentance. Oui, il y aura plus de bénéfices à l'Église, tant spirituel que autre, si elle est réveillée que si elle dort. Il y aura des grands résultats. Ça va affecter même le pays. J'étais en train de suivre un document sur un réveil spirituel au Guatemala. Dans cette ville-là, les choses n'allaient pas du tout bien. Les hommes battaient leurs femmes. À 4h, 5h du matin, on pouvait ramasser des gens parce qu'ils sont ivres de l'alcool. On le ramassait en cours de route. Il y avait 4 grandes prisons dans cette ville, mais on transférait des prisonniers ailleurs parce que les prisons étaient pleines. Il y avait une grande pauvreté, une grande souffrance. Les évangélistes qui ont tenté d'apporter la parole de Dieu étaient lapidés, étaient ridiculisés, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont prié Dieu, ils ont cherché le Seigneur. Et au bout de quelques temps, le Seigneur a agi. Il répond aux prières. Lorsque Dieu a répondu aux prières, c'est extraordinaire, bien-aimé. Les 4 grandes prisons ont fermé parce qu'il n'y avait plus de criminels pour envoyer là-bas. On a démontré comment même la récolte était fructueuse. Il y avait des carottes qui pouvaient atteindre cette taille-là. Le réveil qui va être déclenché ici va toucher même l'économie de notre pays. Oui, bien-aimé. Nous devons prier et croire que le Seigneur est capable de ressusciter les choses, de restaurer les choses dans notre pays. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Car le ténèbre ne règne. Les ténèbres ne vont pas toujours continuer à régner dans notre pays. Lorsqu'il y a un véritable réveil, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le brisement du cœur. Le cœur des hommes et des femmes sont brisés. Il n'y a plus cet orgueil. Vous voyez, cet orgueil, ce mépris-là des autres. Cette tendance à se mettre sur un piédestal et regarder les autres comme des sauterelles. Il n'y aura plus cet orgueil-là. Le cœur est brisé et Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas juste sortir sur le terrain comme ça, mais nous voulons aller présenter véritablement le vrai Christ. Un homme a dit, l'évangile que nous prêchons est rempli de dynamite, mais nous, nous avons un feu d'artifice en nous. Le feu d'artifice, ça ne fait pas mal. Non! Non! Jésus a dit que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point, parce qu'il sait ce qu'il a mis dans son église, son esprit. Alléluia. Son esprit comme source de vie, pour empêcher la décomposition, pour empêcher la pourriture, pour empêcher la corruption, pour empêcher le déclin spirituel. Il a donné son esprit. Mais les cœurs doivent être brisés. Nous devons revenir à la croix. Revenir à la croix. Reconsidérer nos voies. Cette tendance à se voir toujours supérieur. Non, non. Bien aimé, ce ne sont pas les nombres d'années que nous avons passées à l'église qui font de nous des hommes et des femmes spirituels. Non! Mais c'est la fidélité avec laquelle nous avons marché ou nous marchons avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas fidèles, alors quel que soit le nombre d'années que nous avons passées, alors nous ne sommes rien. Rien du tout. Les cœurs doivent être brisés. Revenir au bas de la croix. Deuxième chose, la foi doit être renouvelée. Oui, bien-aimés, nous nous attendons à ce que notre foi soit renouvelée. Renouvelée pour croire encore aux choses de Dieu, pour croire encore en l'amour de Dieu. Regardez ce premier amour-là qui est parti. Cet amour avec lequel nous marchions avec le Seigneur. Cet amour qui nous poussait à craindre le Seigneur. On ne craignait pas Dieu parce qu'on avait peur que les gens nous voient faire le mal, mais parce qu'on aime le Seigneur. Alléluia. Oui, la crainte doit découler de cet amour. Puisque nous l'aimons, nous le craignons, nous le respectons, nous l'honorons. Alléluia. La crainte de Dieu veut dire quatre choses. Premièrement, la crainte de son nom, la crainte de sa personne, la crainte de sa parole et la crainte de l'autorité. Ce sont ces quatre choses qui résument la crainte de Dieu. Il faut craindre son nom. Il faut craindre sa personne. Craindre, respecter sa parole, mais il faut respecter l'autorité. On ne peut pas prétendre respecter Dieu, craindre Dieu, alors qu'on ne respecte pas l'autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un service qui est de plus en plus efficace dans l'Église, parce que notre service ne sera pas le fruit ou le résultat du formalisme. Nous voulons garder certaines apparences extérieures. Et parfois, on est spécialiste dans ça parce que nous savons comment faire pour que les gens voient qu'on est spirituel, voient qu'on adore convenablement le Seigneur. Nous savons comment le faire. Mais Dieu n'a que faire de toutes ces choses-là. Il veut que nos cœurs reviennent véritablement à lui. Il faut que chaque service, chaque département dans l'église puisse avoir un impact spirituel particulier. Et c'est comme cela que la flamme que chacun de nous apportera embrasera cet endroit. Et va se tendre pour toucher même le monde. Parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, il n'y a pas que l'aspect de la proclamation, mais il y a l'aspect du témoignage. Les gens nous regardent. Ce que nous sommes crie plus que ce que nous disons. Les gens observent ce que nous sommes. Les gens nous regardent. Nous pouvons prêcher l'amour de Dieu aux autres. Est-ce que nous vivons nous-mêmes dans l'amour? Nous pouvons prêcher la sanctification aux autres. Est-ce que nous vivons nous-mêmes dans la sanctification? Il y a la dimension témoignage qui est d'une grande importance. Oui, car il y a des gens qui seront gagnés sans parole, mais à cause de votre attitude, à cause de l'attitude de l'Église. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'en bas, nous voyons là l'état d'une église qui respire correctement sur le plan spirituel. C'est extraordinaire. Regardez leur service. Regardez leur louange. Les gens n'osaient pas s'approcher d'eux. Ça veut dire quoi? Des faux. Ceux qui savaient qu'ils n'étaient pas encore prêts là, ils n'osaient pas avancer. Celui qui mettait ses pieds là, il savait que moi j'en ai fini avec le monde. Ceux qui ont tenté de jouer au double jeu, Ananias et Saphira, vous avez vu ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? L'Église actuellement doit redevenir comme cela. Car les méchants ne résistera pas dans l'Assemblée des Saints. Un service brillant, brûlant pour le Seigneur. C'est justement dans cet état-là que nous aurons à accomplir une évangélisation efficace. Les gens viendront à Jésus s'ils voient les résultats efficaces de l'Évangile. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui le peuvent, ce matin, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, nous allons prier à genoux. Ceux qui ne le peuvent pas, ce n'est pas grave. Nous allons prier à genoux pendant un moment. Je voudrais que nos bien-aimés nous entonnent cette chanson qui dit « Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, précieux Jésus, venu d'en haut. » Alléluia. Alléluia. Précieux Jésus, venu d'en haut de tout notre cœur, sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte. Pour nous délivrer de l'âme. Disons encore, précieux Jésus venu d'en haut. Sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. On le dit encore, précieux Jésus venu d'en haut. Il y a quelque chose qui va se passer dans nos cœurs maintenant. Il y a la flamme qui va se renouveler. Alléluia. À la croix, tu subis la honte. Maintenant, disons, nous venons à toi. Alléluia.
Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi.
Encore, nous venons à toi. Dis-le, 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 dis-le de tout ton cœur. Jésus! Jésus! Envoie immortel! Vois les dieux parfaits! Alléluia! Encore une dernière fois, nous venons à toi, Seigneur!
Nous inclinons nos cœurs
mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche sa face, ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé, humilions-nous devant sa main puissante. Humilions-nous devant sa face. Disons-lui, Seigneur, nous retournons à toi. Nous nous sommes égarés de bien des manières. Mais ce matin, nous revenons à toi. Car nous voulons un réveil authentique. Nous voulons un vrai réveil. Jésus, reviens dans ton église. Reviens dans nos cœurs. Reviens dans nos familles. Reviens dans notre pays. Prions, 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 prions le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Répands ton onction, Seigneur. Renouvelle notre foi, Jésus. Renouvelle ton esprit en nous, oh Dieu.
Oh Jésus, oh Yakore Amanda Yakorobo Santara Baba, She Yakorobo Sande Barababa, Esprit de Dieu, Alléluia, Alléluia.